La question de l'inégalité entre les sexes et les stéréotypes qui y sont associés reste toujours un thème qui persiste. Cette question de l'inégalité se dévoile d'ailleurs sous différents aspects dans des domaines très variés comme l'éducation, la politique, le sport ou la culture. Et dans cette tête au carré, nous allons d'abord interroger une neurobiologiste pour savoir ce que le cerveau nous dit de l'aspect biologique des différences entre les hommes et les femmes. Et puis un géographe va nous montrer que la ville est également un espace qui se décline surtout au masculin avec des lieux fait par et pour les hommes. C'est le dossier de l'émission et je vous présente mes invités dans un instant. L'émission étant justement enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Et puis toute cette semaine, nous revenons à la une sur les sujets qui ont marqué cette année scientifique. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, dernier jour de l'année, on revient sur la résistance bactérienne aux antibiotiques.
Et oui Mathieu, c'est le sujet chaud en matière de santé. Comment lutter contre la résistance bactérienne et éviter d'aller droit dans le mur? On fait le point dans un instant avec nos invités.
Céline Hila est aux commandes de cette dernière Tête au Carré 2015 avec un dossier préparé par Emmanuel Fournier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les inégalités entre les sexes, dossier donc de notre émission avec mes invités, la neurobiologiste Catherine Vidal et le géographe Yves Rébaud. Bonjour à tous
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bienvenue Catherine Vidal. Si je posais sur la table un cerveau d'homme et un cerveau de femme, est-ce que vous pourriez me dire immédiatement à quel sexe ils appartiennent?
Eh bien non.
À vue d'œil, il n'y a rien du tout qui les différencie.
Impossible de deviner. Eh oui.
Ouais. Même la taille, tout ça, non
c'est... Même la taille.
Ouais. Aucune information vraiment ne se dégage d'un cerveau.
C'est-à-dire que la variabilité entre les cerveaux de tous les individus est telle qu'on peut décliner les volumes, la forme, les proportions de matière grise et de matière blanche sous forme très hétérogène et on peut pas, il n'y a pas une règle générale qui ferait qu'on peut distinguer facilement un cerveau d'homme d'un cerveau de femme.
On va parler avec vous beaucoup de plasticité cérébrale et de l'influence de l'environnement justement sur nos cerveaux. Yves Rébaud, à quoi est-ce qu'on peut voir que les villes ont été pensées par et pour des hommes ?
Bien, il suffit de constater que les habitantes et les habitants, à partir du moment où on ouvre les yeux, n'ont pas les mêmes circulations, ne stationnent pas de la même manière, ne circulent pas de la même manière, et immédiatement on se rend compte que la domination des hommes sur l'espace public est plus importante.
Oui, c'est original comme travail d'observation, ce que vous avez fait ?
C'est original, c'est quelque chose qui correspond aussi à des agendas de villes qui cherchent à améliorer les ambiances urbaines, qui se posent les problèmes de la sécurité d'une façon différente, et puis également qui gèrent leur budget en se demandant s'il est bien juste de consacrer autant d'argent aux uns et aux autres.
Ouais. Donc c'est le sexisme des villes, hein, au fond,
on peut
dont
dire
on
va ça,
parler
on peut dire ça.
Avec vous dans un instant. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour ce dossier, inspiré par une collection qui s'appelle Égal à Égal et qui est proposée par les éditions Belin. Et à la une de la science aujourd'hui, une véritable guerre qui a été déclarée en janvier dernier.
La résistance bactérienne aux antibiotiques est le problème numéro un de santé publique aujourd'hui. Elle fait chaque année des milliers de morts et des millions de malades seulement aux États-Unis. Et cela continuera d'augmenter à moins que nous trouvions des solutions concrètes et coordonnées pour la combattre.
Et c'était la voix de Barack Obama. En septembre, l'Institut de veille sanitaire français et en novembre, l'Organisation mondiale pour la santé soulignaient également l'importance d'enclencher des mesures mondiales de lutte contre la résistance bactérienne aux antibiotiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? À quoi s'attendre justement à partir de 2016? Marie-Hélène, Nicolas Chanoine et Jean Carlet, bonjour.
Bonjour.
Jean Carlet, vous êtes réanimateur, président de l'Alliance contre le développement des bactéries multirésistantes et vous êtes coordinateur d'un rapport qui a été remis en septembre à Marisol Touraine. Et puis Marie-Hélène, Nicolas Chanoine, vous êtes professeur de microbiologie et chef de service à l'hôpital Beaujon à Paris. Jean Carlet, 158 000 infections par an, 13 000 morts dues à l'antibiorésistance en France, ce sont les chiffres de votre rapport. C'est trois fois plus que les accidents de la route. Comment la résistance aux antibiotiques tue-t-elle exactement ?
Les bactéries donc, qui sont multirésistantes sont très difficiles à traiter par les antibiotiques. Elles surviennent souvent chez des patients qui, par ailleurs, ont éventuellement des maladies chroniques ou bien sont en soins intensifs, en réanimation. Donc, ont déjà des pathologies sous-jacentes. Donc, en fait, les 13 000 morts, on peut pas dire que c'est la mortalité de la résistance, mais c'est la mortalité des infections liées aux bactéries multirésistantes.
Oui, parce que ces infections, la plupart, on savait les soigner avant et elles deviennent mortelles aujourd'hui?
On savait les soigner avant. Il y a des progrès qui ont été faits tout au cours des derniers des dernières décennies pour traiter les infections avec des antibiotiques de meilleur en meilleur et un traitement symptomatique aussi de meilleur en meilleur. Le traitement symptomatique persiste, bien entendu, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'effectivement, il y a des bactéries qui sont résistantes à la quasi-totalité des antibiotiques. Il y en a même quelques-unes qui sont résistantes à la totalité des antibiotiques. Dans notre pays, il n'y en a pas encore trop, mais dans certains pays, c'est une vraie avalanche.
Marie-Hélène Nicolas Chanoine, comment faire comprendre l'ampleur du problème autrement qu'en comptant le nombre de morts à venir? Est-ce qu'il y a une solution alternative pour se visualiser dans un avenir rempli d'antibiorésistance?
Oui, je pense qu'on pourrait mettre en exergue un rapport entre le nombre, la prévalence, les pourcentages de germes résistants dans des infections et par exemple l'infection urinaire qui est liée à Escherichia coli, c'est la bactérie la plus commune. Eh bien, c'est dans cette espèce qu'est venue se nicher une résistance il y a à peu près une dizaine d'années et on est à l'heure actuelle, selon les gens, les situations, on va dire grosso modo sur une personne sur dix peut être atteinte par une bactérie multirésistante. Donc je pense que si on explique ça aux gens, ça reste plus concret que la mortalité. Mmh. Et c'est ce qui nous a fait dire qu'il est urgent de s'occuper de ce problème, parce que c'est devenu quelque chose de commun. Au sens, c'est passé dans la communauté. Et ce n'est pas qu'à l'hôpital. Et c'est chez des bactéries qui sont fréquentes. Mmh. Voilà. D'où l'urgence.
Jean Carlet, justement, pour lutter, il faut identifier les causes du problème. C'est ce que vous avez fait dans ce rapport. Quels sont-ils, les principaux, en tous les cas?
Il y a des causes humaines. Et la principale cause, c'est la surconsommation des antibiotiques. Mmh. Donc, une consommation débridée, une consommation dans des pathologies qui sont virales.
Donc surprescription de ces antibiotiques.
Sur lesquelles les antibiotiques n'ont aucun effet. Donc c'est une des causes principales de la surconsommation. C'est ce traitement dans les maladies virales, en particulier les maladies respiratoires. Donc il y a l'homme, il y a aussi les animaux, avec une résistance qui maintenant est bien connue et qui aussi a augmenté au cours des décennies, et puis il y a l'environnement également qui maintenant est également quelque chose de très important dans la physiopathologie.
Les antibiotiques, c'est pas automatique, le slogan était trop vite oublié?
Je crois pas qu'il a été oublié, puisque dans tout ce groupe de travail, les gens ont remis ce slogan et on a dit faudrait trouver une autre campagne. Et ce slogan, et j'en parlais avec Jean avant de vous retrouver,
il a marqué les esprits,
ça a eu des, c'est pas seulement ça a marqué les esprits, ça a marqué les comportements.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et je rappelais à Jean qu'il y a des travaux qui montrent que chez les enfants en pédiatrie, la campagne a commencé en 2012 et des travaux jusqu'en 2014 ont montré que dans la cible des rhinopharyngites, il y a eu 50% de moins de prescriptions.
Oui, donc c'est énorme.
C'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Et c'est lié à, d'une part, les prescriptions, mais aussi au fait que les mamans ou les parents ont moins emmené les enfants chez le médecin, donc il y a eu moins de prescriptions. Donc moi, je suis enthousiaste de ce résultat et je pense que, justement, faire campagne à nouveau et travailler avec les prescripteurs me semble jouable et gagnable.
Dans votre rapport, Jean Carlet, vous dites qu'il faudrait encore diminuer de 50% la consommation. Comment faire concrètement?
Oui, on dit que 30 à 50% des prescriptions sont inutiles, donc ce serait bien d'essayer d'éviter ces prescriptions inutiles. C'est, comme je vous le disais à l'instant, essentiellement le traitement antibiotique dans des pathologies virales qui représente le gros du problème. Donc il faut essayer d'améliorer le diagnostic. Pour l'instant, on n'a pas énormément de tests qui nous permettent de dire c'est bactérien ou c'est viral. Il y a un test pour les angines qui d'ailleurs n'est pas utilisé très très largement par les médecins généralistes. Mais il y a d'autres tests qu'on pourrait imaginer qui permettraient de trancher entre les deux, qui aideraient les médecins, qui les déculpabiliseraient de ne pas commencer un traitement antibiotique.
Alors justement, Marie-Hélène Nicolas Chanoine, quand on est face à son médecin, c'est au patient de l'éduquer ou le contraire, plus logiquement quand même?
Je pense que c'est l'inter-éducation. Voilà, l'exemple, je pense, de la pédiatrie me doit montrer assez bien. C'est-à-dire que si la mère a confiance dans son médecin qui lui dit « mais non, faut pas prendre d'antibiotiques » et que ensuite, j'allais dire, les médecins sont aussi entourés de gens qui discutent et leur disent « vous êtes sûrs ?» Voilà, je pense que c'est une inter-éducation et qui peut marcher.
Vous avez proposé la création d'un poste de délégué interministériel à l'antibiorésistance, ça a été fait. Il y a d'autres mesures que vous avez proposées. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir venir pour 2016 ?
Jean Carlet.
Jean-Carlet.
Il y a plusieurs mesures, gros outils qu'on a proposés. Il y a toute une liste de mesures techniques également pour lesquelles on n'a pas encore de feedback du ministère. Mais pour les quatre grandes mesures, les quatre grands outils, on a un feedback positif. Il y a le comité interministériel avec un délégué pour coordonner l'ensemble des actions entre les différents ministères, qui est vraiment une action très très importante. Il y a le plan national de recherche pour l'antibiorésistance. Il y a le fait de considérer les antibiotiques comme des médicaments particuliers avec un statut particulier qui permettent, lorsqu'un produit est considéré comme innovant, de déclencher une série de mesures incitatives pour essayer d'aider la recherche et le développement pour les firmes pharmaceutiques qui travaillent sur le sujet. Et puis, il y a également de postuler pour que ce thème de l'antibiorésistance soit la grande cause nationale pour 2016.
Oui, ce sera à partir de demain, 2016, justement, en espérant justement que ça fasse avancer les choses. Et c'est un des grands enjeux de santé publique, en tous les cas. On l'a bien compris avec ce message de Barack Obama, qu'on entendait il y a un instant, qui avait été émis il y a un an, quasiment tout juste. Marie-Hélène, Nicolas Chanoine et Jean Carlet, merci beaucoup d'être venus dans cette tête au carré. Et puis, bon réveillon à vous ce soir et on se retrouve peut-être en 2016. Merci beaucoup.
Merci.
Allez, les inégalités entre les sexes, dossier de l'émission dans un instant. Et bon réveillon Axel Villard au fait.
Bon réveillon Mathieu.
À demain.
À demain.
Yeah. Mon histoire se passe dans les années 30, les cachots, le mitard, les sanctions. Vers 1944, j'ai eu ma libération. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là, je commence l'histoire par la fin. Accusé à tort aux assiettes, un jour j'ai pris perpète. Transporté à Cayenne, à l'autre bout de la planète. Président et juré sont tranquilles à Paris. Depuis qu'ils m'ont envoyé ici, je dirais pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si j'étais Jésus-Christ, mais moi, je suis Papillon. Je dors les fers aux pieds la nuit pendant qu'ils sont sous la couette avec maman. J'y moisirai pas longtemps à la première occasion. Je flinguerai ces couillons, je m'appelle Papillon. Les jurés sont des caves alignées sur leurs bancs. Remplaçons-les par des bons truands. Les peines seraient moins longues aujourd'hui dans les prisons. Il y aurait moins de monde. Votez Papillon. Les forçats sont musclés, grands costauds, beaux, bronzés et tatoués. C'est à l'encre de Chine à l'aiguille qu'ici on fait la bousille. Il n'y a pas de salon, non, 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 c'est pas de la décoration. Le bagne de Cayenne, c'est pas la Costa Brava. Quand on y reste, c'est qu'on y crèvera. Certains comme moi n'ont jamais lâché, d'autres ont abandonné. C'est la mort qui viendra un jour les délivrer. Chourave et les assassinats, j'ai pris la plus grosse vague et voilà. Sur un radeau de noix de coco, j'ai fait la belle sur l'eau. J'ai nagé vers ma vie, tu es libre papillon. J'ai nagé vers ma vie, tu es libre papillon.
San Severino.
La tête.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
Au carré.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Sur France Inter.
Les inégalités entre les sexes, donc aujourd'hui, dossier de la tête au carré, dernier dossier de l'année qui va nous permettre justement d'explorer le cerveau des hommes et des femmes et de comprendre avec l'exemple de la ville que le sexisme va se nicher jusque dans l'organisation de la cité. Et pour en parler, Catherine Vidal et Yves Rébeau. Catherine Vidal, vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche honoraire en neurosciences à l'Institut Pasteur et vous animez actuellement le groupe de réflexion genre et recherche en santé au sein du comité d'éthique de l'INSERM. Vous publiez Nos cerveaux tous pareils, tous différents aux éditions Belin, dans la collection Égal à Égal. Et puis Yves Rébeau, vous êtes géographe, maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne, chargé de mission égalité homme-femme, et vous travaillez sur la géographie du genre et la géographie de la culture. C'est bien la première fois qu'on en parle d'ailleurs dans l'émission. Je suis ravi de vous recevoir également pour cette raison. Et vous publiez toujours chez Belin, La ville faite par et pour les hommes. Catherine Vidal, justement, un mot d'abord sur cette collection Égal à Égal, dont vous êtes à l'origine. C'est le laboratoire de l'égalité qui a noué un partenariat, en fait, avec les éditions Belin, ce qui a donné naissance déjà à 8 ouvrage.
Voilà, donc le laboratoire de l'égalité, c'est ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire d'idées qui a pour objectif de promouvoir une culture de l'égalité et aussi la mettre en acte dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique, culturelle. Et pour cela, bien sûr, il faut arriver à sensibiliser le grand public. Et donc, en partenariat avec les éditions Belin, nous avons décidé de créer une nouvelle collection qui s'appelle Égal à Égal, qui va en fait être destinée à un grand public et qui va permettre de répondre à un certain nombre de questions qui concernent l'égalité et aussi, hélas, les inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, que ce soit la vie professionnelle, la vie privée, dans les médias, dans les sports, dans la ville et dans les sciences.
Et ce sont des petits ouvrages, hein, 70 pages à chaque fois, en moyenne, pour vulgariser justement cette thématique.
Voilà, pas cher et très agréable à lire.
Alors, Catherine Vidal, justement, vos deux ouvrages sortent dans cette collection, l'un sur le cerveau, l'autre sur la ville. Inlassablement, depuis des années, Catherine Vidal, vous partagez vos connaissances sur la part de la biologie, la part de l'environnement, dans la construction de nos identités. C'est la grande question sur l'origine innée ou acquise, justement, des différences entre les sexes. Est-ce que d'abord, il y a un consensus à ce sujet aujourd'hui au niveau de la communauté scientifique? Ou est-ce que ça reste très débattu? Est-ce qu'on arrive enfin à entendre ces idées, qui sont des idées d'abord d'observation et de science avant tout?
Oui, c'est un sujet qui reste très débattu parce que, en fait, quand on est scientifique, on est aussi des femmes et des hommes qui s'intègrent dans un contexte social, économique, politique, qui va faire que parmi les scientifiques, il y a des personnes qui ont des idées un petit peu conservatrices et d'autres qui ont des idées progressistes. Et sur la question des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes, on va retrouver ce clivage entre la façon de concevoir ce que c'est qu'un humain, avec certains biologistes qui prétendent que dès la naissance, les cerveaux des petites filles et des petits garçons seraient câblés différemment, donc il y aurait un déterminisme génétique inné.
Donc là, on a les conservateurs d'un côté.
Voilà. Et inversement, il y a des personnes qui prennent en compte tous les progrès de nos connaissances sur la plasticité cérébrale et qui mettent en avant l'importance de l'expérience vécue, des apprentissages dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes.
Yves Rébeau, on est très conservateur en géographie ou pas? Vous faites figure un petit peu d'électron libre.
Comme, je pense que dans toutes les sciences, il y a aussi, heureusement, l'université a recruté depuis quelques années, et ce qui n'était pas le cas avant, beaucoup de jeunes maîtresses de conférences et professeurs de grands talents, et que le fait la présence des femmes dans le milieu universitaire a profondément renouvelé l'approche scientifique dans tous les domaines, je pense.
Donc, on va parler de la ville avec vous, de la façon dont elle est conçue, imaginée, avec ce travail que vous avez mené et qui est très révélateur, justement, des inégalités entre les sexes. Extrait d'un documentaire Voyage au centre du cerveau, pour en parler justement Catherine Vidal, c'était en 2010 sur Arte.
Si le cerveau masculin n'existait pas, nous n'aurions pas inventé la roue. Nous serions encore à l'âge de pierre. C'est l'homme qui a inventé la roue, qui a créé les premiers outils et qui n'a cessé de faire progresser la technologie. Ce sont les femmes qui portaient les enfants, qui les élevaient, et leur contribution est essentielle. Mais elle est d'une autre nature.
Jusqu'à très récemment, le cerveau humain était considéré comme un organe androgyne et on n'accordait aucune attention aux différences de genre. Aujourd'hui encore, si vous consultez n'importe quel traité de neuroanatomie, on vous présente un cerveau humain générique et androgyne, sans donner aucune précision sur les différences entre les sexes. Mais nous savons qu'il existe de subtiles différences.
Les femmes s'expriment mieux que les hommes, elles sont verbalement plus subtiles. Elles possèdent une faculté accrue à procéder avec diplomatie, à s'adapter à un groupe, à découvrir ce que les autres veulent. Autant de choses avec lesquelles les hommes éprouvent des difficultés. Non seulement ils n'en ont pas la disposition, mais l'empathie leur pose problème.
Alors, Catherine Vidal, une petite réaction à ce documentaire sur notre organe, le cerveau, avec de subtiles différences entre les hommes et les femmes. C'est quoi? C'est beaucoup de clichés alignés les uns derrière les autres que vous venez d'entendre?
Oui, ces commentaires sont vraiment typiques d'une certaine façon d'aborder cette question, avec énormément de stéréotypes, de préjugés. Et surtout, les idées qui sont avancées sont des idées qui datent d'il y a 50 ans.
Oui. Mais l'idée du cerveau androgyne, l'idée du cerveau androgyne, elle n'est pas inintéressante quand même, puisque vous dites qu'il n'y a pas tant de différence comme ça entre les sexes, non?
Non, la question, de façon très fondamentale, si on se pose une question, quelles sont les différences entre les femmes et les hommes? Quelles sont les différences entre les cerveaux des femmes et des hommes? Comment expliquer les différences dans les comportements, dans les aptitudes? Derrière tout ça, la question primordiale, c'est de se demander d'où viennent les différences. À nouveau, on est confronté à la question, sont-elles innées, sont-elles acquises? Si on s'intéresse au développement du cerveau, si on fait le suivi justement de la construction anatomique du cerveau depuis la vie fœtale et le développement bien sûr postnatal, on s'aperçoit que notre cerveau se construit essentiellement en fonction des interactions avec l'environnement extérieur, que ce soit l'environnement physique, mais aussi affectif, familial, culturel, avec l'éducation. C'est-à-dire que...
Donc c'est tout ce qu'on appelle l'environnement au sens très très large.
Voilà. Si vous voulez, à la naissance, le petit bébé humain arrive au monde avec un cerveau qui possède 100 milliards de neurones, mais ce cerveau...
Les garçons comme les filles, évidemment.
Voilà. Hein. Et ce cerveau est largement inachevé. C'est pas la... Pas la même chose que le corps, par exemple. Le corps d'un petit bébé, quelque part, il est quasiment fait. Hein. Tout est en miniature. Il y a des petits poumons, des petits muscles, des petits os.
Ça va grandir, mais c'est terminé.
Voilà, quelque part, ça va se contenter de grandir. Alors que le cerveau, lui, pas du tout. Lui, le cerveau, il est vraiment tout au début de sa fabrication. Seulement 10% des connexions entre les neurones sont présentes. Cela veut dire que 90% des milliards et des milliards de connexions entre les neurones de nos cerveaux vont se construire après la naissance, précisément en interaction avec l'environnement.
Ça veut dire qu'on se construit et que notre environnement, notre culture, notre éducation, l'aspect social, fait de nous un homme ou une femme?
Exactement. Et c'est un point très important, c'est-à-dire que quand on comprend à quel point l'environnement joue un rôle fondamental dans la construction du cerveau, on est en fait beaucoup moins étonné qu'on l'a été à un moment, quand on a commencé à faire des études en IRM de façon très systématique, où on s'est aperçu que nous avons toutes et tous des cerveaux différents indépendamment du sexe. Et en fait, comme chacun de nous a une expérience de vie qui lui est propre, cela explique pourquoi nous avons toutes et tous des cerveaux différents. Et la conséquence de cela, c'est que la plupart du temps, les différences que l'on peut observer entre les personnes d'un même sexe sont plus importantes que les différences entre les sexes. Et c'est ce qui vient d'être d'ailleurs brillamment démontré dans un article qui vient de paraître, il y a quelques jours, dans la revue des comptes rendus des sciences de l'Académie américaine, qui montre justement, c'est une étude extensive sur 1400 clichés IRM de cerveaux de femmes et d'hommes, et qui montre qu'il existe une énorme variabilité dans les structures internes du cerveau et qu'on ne, on n'est pas capable de dire qu'il existe des traits anatomiques qui sont spécifiques d'un cerveau féminin ou bien spécifiques d'un cerveau masculin.
Ouf ! Ça a dû vous faire plaisir, cette publication. Yves Rémeau.
Oui, une réaction aussi pour dire qu'on se pose la question en géographie. Il y a eu des ouvrages qui expliquaient pourquoi les femmes ne savaient pas lire les cartes de géographie, par exemple.
Ah,
ou les self-help books type « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Et donc là, on voit bien que c'est aussi une manière de s'appuyer sur une histoire fantastique et légendaire dont on sait presque rien.
Mais il y a des vieux clichés encore là-dessus qui perdurent. Hein.
L'homme des cavernes
sortait
de la grotte.
Alors que la femme restait à l'intérieur.
Oui, visait avec sa lance, était en capacité de rentrer au foyer avec la femme restée à l'extérieur, ce qui explique pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes de géographie, ce qui sont des raisonnements qui font plaisir à une certaine catégorie de la population, mais qui sont complètement désuètes à l'époque du smartphone.
Mais qui persistent encore, tout à fait, malheureusement. Tout à fait. Catherine Vidal.
Oui, parce que c'est important de revenir sur ce scénario de la préhistoire qui continue à être très attractif pour certaines personnes en faisant croire que depuis l'âge de pierre nos cerveaux ont été façonnés génétiquement pour que les hommes aillent chasser, faire la guerre et soient aussi polygames pour disséminer leurs gènes, tandis que les femmes elles restent dans la caverne et elles s'occupent des enfants. Ce scénario, déjà, il est absolument pas étayé par aucune preuve expérimentale. On peut pas du tout savoir quelle était la répartition des tâches entre les femmes et les hommes pendant la vie préhistorique. Mais ce qui est complètement paradoxal, c'est que ce scénario laisse croire que depuis les temps préhistoriques, notre cerveau n'aurait pas changé. C'est-à-dire que même que maintenant, on aurait gardé le même cerveau que du temps de l'âge de pierre, ce qui ferait que les femmes vont plutôt garder leurs enfants et que les hommes vont aller travailler.
Sauf qu'il y a la plasticité quand même cérébrale qui a été découverte entre-temps. Qui montre que le cerveau évolue en permanence au cours de la vie et au cours des temps. Donc ce
scénario est complètement ridicule sur le plan scientifique.
Allez, on reste nous dans notre grotte et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier sur l'inégalité entre les sexes. Et vous êtes dans La Tête au Carré, c'est le 31 décembre aujourd'hui. Et New Order.
Je plie la poussette et tu me rejoins, chérie. Hein? Voilà. Alors, la poussette. Ah oui, clinclon.
Qu'est-ce qu'on fait? On en parle de la poussette ou pas? Non, ça va, ça dérange personne, tout va bien, je veux dire. On est en 2010, on fait du feu avec un iPhone. Mais on peut toujours pas plier cette merde. Tout ça est normal, je veux dire, il n'y a pas un décalage technologique. Enfin, on peut quand même se poser des questions. Y a-t-il des gens qui sont rémunérés pour fabriquer ça? Alors si oui, qui sont-ce? Ah ben moi je veux savoir, qui sont-ce? Ah ben c'est forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes en tout cas, hein, qui... Oh si, il y a vengeance, attends. Oh, oh. Voilà, non. Voilà. Oui, alors peut-être. Ou alors c'est juste des gros pervers, les mecs ils font exprès, puis après ils prennent leurs pieds en nous regardant galérer dans la rue comme ça. Ils kiffent, peut-être des fétichistes de la poussette, on sait pas. Puis c'est vrai que comme les enfants sont patients, c'est pas un problème. Complètement malade ces mecs. C'est quoi leur projet de vie exactement? Enfin, je sais pas, la poussette, moi je peux pas m'empêcher de penser que si ça avait été un accessoire masculin, à mon avis la poussette, ça ferait longtemps que...
Hein? Voilà, les hommes auraient certainement proposé une télécommande pour replier les poussettes si les femmes les avaient dessinées. En tout cas, ces poussettes, la vie des mères en serait certainement bouleversée. Et si les femmes imaginaient nos villes, l'urbanisme, lui aussi, n'aurait sans doute pas non plus le même visage, Yves Rébaud. Hein, votre livre, La ville faite par et pour les hommes, permet justement d'ouvrir un débat scientifique sur cette réalité et ces notions de genre en ville.
Oui, qui suppose qu'on passe par le préalable de voir comment s'organise la place de la femme et des femmes et des hommes dans la ville, oui, avant même de trouver des solutions. Il faut commencer par compter, repérer et puis s'étonner. Par exemple, s'étonner du fait que peut-être c'est quelque chose, la recherche la moins coûteuse et la plus extraordinaire que j'ai faite, c'est de découvrir qu'il n'y avait que des garçons sur les skateparks et les city stades ou dans, oui, les stades. Et en définitive, personne n'y avait pensé avant. C'est-à-dire qu'on disait c'est des lieux pour les jeunes, ou bien les élus disaient on va faire un stade pour les sportifs. Mais quand on dit c'est pour les hommes, quand on constate qu'il y a 39 000 hommes et 1000 femmes dans un stade ou qu'il n'y a que des garçons sur un skatepark, eh bien ça pose effectivement, c'est une manière de poser la différence des sexes dans la ville. Ouais. Et en tirant ce lien, eh bien on retrouve ces scripts masculins qu'on trouve dans les histoires que nous nous racontions avant, c'est-à-dire des hommes qui naturellement sont dans l'expression dans la ville, stationnent, ont des espaces de loisirs, font des tags, urinent, etc. Donc possèdent, mmh, la ville. Et puis il y a des femmes qui sont par vocation, pense-t-on, hein, c'est pas forcément ce qu'elles disent, bien assignées au travail ménager à l'intérieur et à la réclusion.
Ouais. Ça, moi je trouve ça fascinant comme travail, Catherine Vidal, pour justement aborder cette question de l'inégalité des sexes dans un domaine où franchement, a priori, on n'a pas idée de ce que ça représente.
Oui, oui, bah l'aménagement des lieux, que soient les lieux urbains, mais aussi les lieux de travail, les lieux de loisirs, d'une façon générale, est bien sûr influencé par toute cette vision stéréotypée de quelles sont les places des hommes et des femmes, quels, mmh, sont les rôles des unes et des autres, qui ferait que, justement, il y aurait des différences et que on n'a pas pensé que, bon, si on a, par exemple, une poussette, il faut pouvoir accéder dans différents lieux et que c'est pas facile du tout de tirer une poussette quand on doit monter un escalier. Des problèmes de cet ordre-là, c'est un peu comme pour les personnes handicapées, finalement.
Ouais. Mais est-ce que c'est pas finalement aussi une preuve qu'il y a quand même beaucoup de différences entre le cerveau des hommes et des femmes? Parce qu'on voit bien que leur façon de concevoir la ville n'est pas du tout la même, non? Catherine Vidal.
Ah bah si, les hommes conçoivent la ville, c'est parce que les grands concepteurs sont des personnes qui se sont orientées dans des études où il y a essentiellement une majorité d'hommes et que les postes de pouvoir et les postes de décision sont également occupés par des hommes.
Yves Rébaud, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, alors on passe d'un point à l'autre, mais c'est certain que de toute manière, tous les grands architectes, tous les responsables d'équipement, dans les études qu'on a faites sur les organigrammes des villes, eh bien, les responsables de l'équipement, de la voirie, des éclairages, de la circulation, les architectes, les urbanistes, sont tous des hommes. Enfin, il y a un plafond de verre qui empêche les femmes nombreuses d'y accéder. Ce que je voulais dire aussi, pour revenir sur la ville, c'est que là aussi, on voit bien que dès l'enfance, il y a des apprentissages qui se font dans la mobilité. mobilité. Par exemple, observer, comme l'ont fait certains de mes collègues, les mobilités des garçons et des filles montre que dans une cour de récréation, les petits garçons percutent et les filles évitent, ce qu'on va retrouver après dans la circulation de la ville. Certaines amies me disent, quand on marche sur un trottoir et qu'on va tout droit et qu'il y a un homme en face, il faut avoir le bout du courage pour aller jusqu'au bout, parce qu'il est rare que l'homme esquive. C'est vrai aussi, d'ailleurs, me disait une amie dans la piscine ou dans des endroits. Donc on a ces habitudes. Et ces habitudes, elles sont prises aussi dès le départ, grâce dans des équipements tels que les écoles, où on voit que les cours de récréation sont généralement flanqués d'un terrain de sport au milieu, hein, qui annonce la domination des garçons sur un espace dont ils s'approprient dès qu'arrive la récréation, et que les filles contournent inlassablement en essayant quelquefois une incursion dans le terrain du milieu. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a un formatage des modes de circulation et des centralités masculines est effectivement construite déjà dès la vie publique et dès l'enfance.
Catherine Vidal, à quel âge les enfants ont conscience de leur sexe, justement ?
Alors, à la naissance, le petit bébé humain, évidemment, n'a pas conscience de son sexe. Et cette conscience va se développer progressivement à mesure que son cerveau se construit, à mesure que ses neurones se connectent et que ses fonctions cognitives se développent. Et c'est seulement à l'âge de 2 ans et demi que l'enfant a les capacités mentales suffisantes pour s'identifier au masculin ou au féminin.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette bascule justement à l'âge de 2 ans et demi ?
C'est pas une bascule, c'est un phénomène progressif qui fait que les fonctions cognitives, c'est-à-dire les capacités de reconnaissance, les capacités d'étiquetage de ce que représentent le masculin et le féminin, et les capacités aussi du regard sur soi-même, ce n'est pas avant l'âge de 2 ans et demi que ces capacités-là peuvent être réellement fonctionnelles. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que bien avant l'âge de 2 ans et demi, l'environnement de l'enfant a largement été sexué. On lui a décoré sa chambre différemment, on lui a donné des habits différents, des jouets différents, on lui fait faire des activités différentes. On sait aussi que les adultes n'ont pas les mêmes attitudes selon qu'ils s'adressent à un bébé fille ou garçon. Aux filles, ils vont davantage leur parler, leur sourire, faire chanter des chansons, alors qu'avec les garçons, ils auront plus d'activités physiques, ils vont les envoyer sauter en l'air. Enfin, tout ça, ce sont des attitudes très inconscientes. Hein.
Ouais. Mais tout ce qui construisent notre identité
exactement,
sexuelle.
Hein. Exactement. Et tout ce long processus justement d'interaction de l'enfant avec son environnement au sens large va contribuer à forger progressivement certains traits de personnalité, certaines aptitudes, certains comportements en fonction justement des normes du féminin et du masculin qui sont données par la société dans laquelle l'enfant est né.
Alors Yves Rébeau, la mixité en matière de cité et de ville, c'est quasiment inexistant. Enfin vraiment, la description que vous en faites, c'est la domination masculine absolue ?
Non, alors je fais pas cette description-là parce qu'en fait, il y a un côté d'une mixité qui est désirée par les hommes aussi, puisque quand les hommes pensent à la ville, ils pensent souvent les écrivains de la ville, depuis Baudelaire ou Villon, ou en passant d'ailleurs par les personnes qui vendent des destinations touristiques, hein, dont on sait que souvent ce sont des destinations qui peuvent être érotiques aussi, hein, donc et c'est très orienté sur une ville qui est justement plaisante. Et donc cette ville plaisante...
Là, il y a une féminisation des choses.
Oui, il y a une féminisation de la ville, et puis il y a une nécessité qui est des femmes dans la ville, parce qu'une ville où il n'y aurait que des hommes, c'est quand
bien
même
sûr,
pas très amusant.
Bien sûr. Sauf qu'au-delà de ça...
On imagine effectivement un script, et c'est là où je pense, où il faut qu'il y ait des femmes dans la ville. Donc il faut qu'il y ait des jeunes femmes dans la ville, il faut qu'il y ait soit dans une société moderne, on peut dire, des étudiantes, hein, c'est pour ça qu'on remet les universités au centre-ville, il faut encourager les femmes à sortir, mais on les encourage en les en considérant aussi comme des objets sexuels, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment une volonté que la ville soit mixte, c'est finalement une volonté que la ville soit agréable, y compris pour les hommes. Mais dans les faits, on voit bien, en mesurant de façon précise les mobilités des femmes, leurs emplacements, d'une part que leurs mobilités sont contraintes. Alors,
c'est-à-dire
pas toutes. Beaucoup de femmes qui circulent la nuit disent marcher ni trop vite, ni trop lentement, ni trop vite pour pas faire croire qu'elles ont peur, ni trop lentement pour pas faire penser qu'elles cherchent. On peut dire aussi que la majorité des femmes qui ont été interrogées disent craindre stationner dans la rue, hein, et en particulier le soir et dans certains quartiers, parce qu'une femme qui stationne stationnent, c'est une femme qui est abordée, alors que quand elles sont en mobilité, elles sont moins abordées. Ça les amène aussi à craindre les arrêts de bus, hein, etc., etc., et les arrêts. Donc là, on a des choses qui sont très intéressantes à voir dans la mobilité des femmes, et puis également dans la surface qu'elles couvrent. C'est là qu'en fait, mon collègue Guy Dimeo, hein, géographe, a mesuré ce qu'il appelle les murs invisibles, c'est-à-dire les murs que les femmes ne franchissent pas, les circulations.
C'est-à-dire, là aussi bien,
par exemple, dans certaines villes, on craint tel quartier puisqu'il a mauvaise réputation, ou bien on prend un trottoir plus qu'un autre, on évite telle station. Et donc, il y a un système d'information commune qui fait que les femmes ont des stratégies pour aborder la ville, et ces stratégies, ça ne signifie pas qu'elles ne vont pas en ville. Hein. Certaines disent même pas peur, j'y vais. Mais à ce moment-là, elles utilisent des stratégies de se couvrir le corps, d'utiliser certains circuits. Et il y a toujours cette anxiété d'aborder la ville pour les femmes. Et cette anxiété, elle est liée au fait d'être reconnue comme un objet sexuel.
C'est étonnant parce qu'on pourrait presque penser là aussi au cerveau, Catherine Vidal, avec justement cette plasticité et la réorganisation des circuits neuronaux. C'est-à-dire qu'on s'habitue à prendre d'autres chemins, au fond, pour éviter un obstacle.
Oui, bah, bien évidemment, on s'adapte en permanence aux situations. Mais je voulais rebondir sur la question justement de l'insécurité des femmes qui, très souvent, sont victimes justement d'agressions et aussi de violences. Ça, c'est quelque chose qui a un sujet de société très important auquel il faut sur lequel il faut vraiment travailler. Et personnellement, dans ma démarche en tant que neurobiologiste, il est important aussi d'expliquer que justement, ce n'est pas la nature qui ferait que les hommes seraient comme ça, biologiquement faits pour soi-disant avoir plus d'appétit sexuel et plus de pulsions violentes que les femmes. En fait, ce n'est pas la testostérone, contrairement à ce que certains laissent croire, qui fait que les hommes ont ce genre d'attitude envers les femmes. C'est évidemment un formatage social, culturel, qui s'inscrit dans une longue histoire de l'humanité, qui fait que les hommes adoptent ces comportements. Mais ce n'est en aucun cas lié à une nature biologique. Oui. Parce que à partir du moment où on dit « Ah, mais quand même, c'est la nature... »
C'est une excuse, au fond. Hein.
À partir de ce moment-là, c'est très grave, les conséquences. Oui. Ça veut dire que, finalement, si c'est biologique...
C'est déterminé à l'avance, et on n'y peut rien.
Voilà, ça veut dire que c'est normal, ça ne sert à rien de s'opposer à ça. Et donc, quelque part, c'est remettre en cause toutes les lois qui concernent les lois contre le harcèlement sexuel et les lois contre les violences faites aux femmes.
Et on y reviendra dans un instant, juste après Magali Noël.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny,
Oh la vache. Oh, j'en ai marre alors.
Voilà, ça colle parfaitement au propos que vous teniez juste avant, hein. Catherine Vidal, avec Magali Noël, fais-moi mal, Johnny. La question du harcèlement sexuel, hein, elle est centrale aussi dans cette question des villes. Yves Rébeau, vous en parlez dans cet ouvrage La ville faite par et pour les hommes. On va écouter un documentaire qui est signé de Sophie Peters, s'appelle Femmes de la rue, qui a eu beaucoup d'écho en 2012. On écoute cet extrait et on le commente juste après.
Bonjour mademoiselle, ça va?
Oui, ça va.
Mais franchement, tu me plais trop, hein.
Oui, mais...
Mais quoi, alors? Vous êtes invité ici, en Bruxelles, ou un peu sur le numéro, là?
Non, merci.
Vous aviez un copain ou quoi?
Oui, et j'ai pas vraiment envie de bavarder.
Vas-y, donne-nous mon numéro, hein. Pourquoi? Allez, viens. Mais quoi, alors? Vas-y, dis-moi.
Vous n'en êtes pas honteux, tu veux pas?
Allez, va, dégage, salope, dégage. Ça.
Comment tu veux faire? Tu as une publicité de shampoing, t'as une femme toute nue. T'as une publicité de brosse à dents, ben t'as une femme toute nue. Comme Baywatch, comme machin, t'as des femmes qui courent au ralenti, des femmes qui nettoient des voitures habillées en slipette. Tu comprends pas. Donc comment tu veux expliquer à ces jeunes-là qu'il faut respecter la femme et qu'il faut lui parler normalement, alors que lui, tout ce qu'il voit, c'est des femmes nues. Il va en discothèque, il y a des femmes nues qui dansent. Partout où tu vas. La femme n'est pas si émancipée que ça, je crois. Il y a de l'émancipation, il y a de la liberté en Europe. Enfin, dans l'Occident. Mais la femme reste, à mon sens, encore et toujours, un objet de désir de l'homme. C'est tout.
Voilà, Yves Rébeau, il faut commenter hein, ce qu'on vient d'entendre, justement, ce documentaire « Femmes de la rue » de Sophie Peters, qui a été fait dans un cadre particulier. Hein.
Oui, mais à la fois, il faut le féliciter, hein, puisque c'est la réalité d'une chose. Puis je vous sais gré d'avoir passé cet extrait de la fin, où il y a effectivement des paroles d'hommes qui sont conscients hein, de cette question. Non, je pense que le harcèlement sexuel, c'est pas l'effet de quelques malades obsédés, à qui on voudrait d'ailleurs attribuer une origine ou une religion. Hein. C'est un phénomène général. En tant que chargé de mission égalité femmes-hommes, on a lutté contre les harceleurs à haut niveau d'études, les professeurs d'université qui harcèlent leurs doctorantes, contre les étudiants, contre les prédateurs qui suivent les filles étrangères sur le campus et qui sont des bons pères familles, qui se font de l'adrénaline. Mmh. Donc je crois que c'est quelque chose, il faut prendre garde de ne pas ethniciser la question. Hein, c'est vraiment... Alors, se dire aussi que le harcèlement sexuel, bien, c'est 9%, 10% de la catégorie des hommes. Peut-être c'est à peu près la même proportion d'hommes qui vont voir des prostituées également. Hein. Donc c'est une minorité d'hommes, mais c'est la minorité d'hommes.
Une minorité, 9-10%, c'est déjà pas mal.
C'est quand même une minorité d'hommes, ça veut dire qu'il y en a 90% qui ne sont pas concernés, mais c'est ces hommes qui donnent le ton à la ville, et surtout ce sont des hommes qui effectivement sont dans cette logique de performance dans la ville, c'est-à-dire que le harcèlement de rue, eh bien, c'est intéressant, parce que ça permet de dire aux joggeuses, attention, hein, vous faites du jogging, du sport, mais à vos risques et périls, ça fait dire aux étudiantes, attention, vous sortez en boîte, mais si vous êtes victime d'un viol, à la fin, c'est à vos risques et périls. Donc il y a toujours cette pression systémique pour que les femmes soient dans la ville à leurs risques et périls, justement. Et puis, il y a une logique que les féministes connaissent bien. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même assez intérêt d'avoir des femmes qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, qui font les courses et qui restent à la maison. Donc là aussi, ne pas voir le côté matériel de cette domination de l'espace par les garçons, hein, et voir qu'effectivement, tous les moyens qui leur sont donnés dans l'espace public, eh bien, sont des moyens qui sont retirés aux femmes, qui sont de cette façon extraites de l'espace public.
Catherine Vidal, une réaction à ce qu'on vient d'entendre là dans ce documentaire, justement?
Oui, bah ce...
Et les propos tenus par ces hommes. Hein.
Ce documentaire illustre effectivement déjà l'importance de la prise de conscience des hommes sur ces questions-là. Et maintenant, la parole est plus libérée. Il y a des hommes qui s'engagent vraiment pour qu'il y ait plus d'égalité dans la société, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans le partage de la vie avec la vie domestique également. C'est important que les hommes et les femmes ensemble travaille sur ces questions d'égalité.
Ouais.
Et d'ailleurs, dans notre collection Égal à Égal, nous avons autant d'auteurs, femmes que hommes.
Heureusement.
Oui, et c'est vraiment important que ce travail-là se fasse ensemble.
Ouais. En tout cas, Yves Rébeau, vous avez cette fonction de chargé de mission égalité homme-femme à l'université de Bordeaux-Montaigne, et vous avez créé en 2014 une cellule de veille, justement, contre les violences sexistes et homophobes.
Oui, alors nous avons créé, hein, donc c'est un travail collectif qui réunit à parité des enseignants, des personnels techniques et puis des étudiants. Et on a voulu aussi qu'il y ait une certaine discrétion dans l'accueil des plaignantes ou des victimes, hein, en confiant cette responsabilité de cette cellule veille à l'infirmière universitaire qui est formée pour ça. Donc il y a tout un protocole maintenant qui commence à être répandu dans la majorité des universités françaises, mais qui était exceptionnel au départ.
C'est ça, parce que le sujet reste encore tabou aujourd'hui.
Ah oui, mais bien sûr, il y a dans les facs de médecine, dans les facs de sciences, hein, où les hommes sont extrêmement dominants. À partir du moment où on a une administration qui est à domination masculine, eh bien, il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, hein, dans le recrutement des doctorants, dans le recrutement des collègues, dans le harcèlement des étudiantes, avec une université qui très souvent croit le professeur d'université quand il dit que lui-même a été harcelé par l'étudiante, ou que c'était consenti, hein, ou même que lui-même a été harcelé par cette étudiante. Et c'est l'enseignant qu'on croira pas, et pas l'étudiante. Donc là, il y a aussi un renversement, hein, de perspective qui consiste à dire si l'université doit être vertueuse, et moi je pense que c'est en grosse partie pourquoi l'université a refusé les études de genre dans tous les domaines, c'était le fait qu'elle était menée et dominée par des groupes d'hommes. Ouais. En fait, hein.
Le genre d'ailleurs, Catherine Vidal, c'est quoi au fond? C'est une construction intellectuelle avant tout?
Le genre, contrairement à ce qu'on entend hélas trop souvent, n'est pas du tout une théorie. Le genre, c'est un concept. C'est un concept qui permet d'analyser comment se forgent les identités des femmes et des hommes, comment se forgent les rapports sociaux entre les femmes et les hommes, et également comment se forgent les inégalités et les discriminations. Donc ce concept-là, il est utilisé par de très nombreuses disciplines, aussi bien l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, et maintenant également, il est utilisé par la biologie. Il est utilisé par la biologie à cause, justement, de la mise en évidence de l'importance de ce dont on a parlé tout à l'heure, cette fameuse plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale montre à quel point l'environnement va forger les identités des femmes et des hommes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dorénavant dire il y a d'un côté le sexe avec les hormones, les chromosomes, et il y a d'un autre côté le genre avec la culture, la société qui serait responsable de nos différences de comportement. En fait, les deux, sexe et genre, sont intimement liés. C'est-à-dire que le sexe va influencer sur le genre et le genre va influencer sur le sexe. Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, le fait de porter des talons hauts, va entraîner des problèmes d'ostéoporose, va fragiliser le squelette parce que cela entraîne des problèmes dans la stabilisation du squelette. Le fait de rester à la maison et de rester confiné dans des endroits et de pas aller à l'extérieur, ça va entraîner un manque de vitamine D et de soleil qui va permettre une bonne croissance du squelette. Vous voyez, ça c'est comment le genre influence la biologie.
Yves Rébeau, pour terminer, quelle solution justement pour rendre une ville plus égalitaire, moins sexiste, plus mixte?
Alors en fait, il y a une série de solutions, hein, qui sont mises en œuvre. D'ailleurs, je voulais saluer la ville de Bordeaux qui s'y est mise depuis peu, hein, donc avec des tas d'initiatives. La première chose consiste à d'abord avoir des gestions paritaires, hein, évidemment.
Oui, déjà une représentativité. Les villes, voilà.
Ensuite, qu'à l'intérieur même de l'appareil municipal, on se débarrasse du harcèlement sexuel qui existe. Vous avez vu les histoires qu'il y a pu avoir dans certaines administrations communales avec des abus, hein, qui sont l'objet de scandales. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi cette question, un thème important et qui est très pratique, que la mairie de Paris commence à mettre en œuvre, qui s'appelle le gender budgeting, les budgets genrés. À partir d'un constat dont je n'ai pas parlé, mais qui est assez effrayant quand on y pense, c'est les chiffres qu'on a recueillis sur toute la France montrent que 75% des dépenses publiques vont aux loisirs des garçons, et pour 25% des filles, avec ce phénomène massif de décrochage des filles des loisirs publics, eh bien, mettre en des analyses genrées des budgets pour favoriser, encourager la présence de filles dans l'espace public. Et cette plasticité dont vous parlez, eh bien, effectivement, c'est celle aussi de cette confiance en soi que les jeunes femmes, mais aussi les garçons qui sont pas non plus dans les normes de genre. Hein. Donc j'insiste aussi pour dire que cette vulnérabilité, bien, elle est partagée aussi par les garçons gays ou pour les filles et les garçons trans dans la ville. Donc on voit bien que c'est bien une question de virilité dominante et pas une question de sexe biologique, là aussi.
Ouais.
À moins de considérer que quelqu'un qui est homosexuel est biologiquement homosexuel, mais ça, on ne peut pas le prouver non plus.
Ouais.
Donc on voit bien que c'est bien cette domination masculine sur la ville, cette pensée masculine de la ville qui empêche finalement l'expression d'une partie de la population.
Est-ce qu'il y a une ville aujourd'hui dans le monde qui fait vraiment office d'exemple ?
Oui, alors moi je pense d'abord qu'il faut saluer les villes françaises, Rennes, Paris, Bordeaux maintenant, hein, et puis Vienne, hein, la ville de Vienne en Autriche, qui est certainement depuis 15 ans celle qui a le plus travaillé sur ces ambiances urbaines.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc cette collection à découvrir absolument égal à égal, c'est chez Belin, Catherine Vidal par exemple, sur les 8 ouvrages qui sont sortis, Nos cerveaux tous pareils, tous différents, ou Yves Rébaud, La géographie, qui travaille sur cette question aussi, la ville faite par et pour les hommes. Passez un très bon réveillon à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et puis espérons vous retrouver à l'occasion en 2016. Merci beaucoup.
Et bonne année 2016. Bonne
merci
année
beaucoup.
À vous aussi.
Excellent réveillon, bien sûr, à vous tous. On se retrouvera demain pour le club de la tête au carré de cette première journée de 2016. Et très bonne année également à Céline Hila et Mathias Saléon qui étaient aujourd'hui à la technique. Dans un instant, affaires sensibles, ce sera Fabrice Drouel. Bonne soirée à tous.